écoute sur Radio Dio, c'est qui ou quoi ? Roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio. Une petite heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Bienvenue dans Qui ou quoi, donc l'émission qui parle de livres mais pas que sur Radio Dio, dans sa cinquième année de Qui ou quoi, et pour la deuxième émission sur le nouvel horaire, à savoir le premier jeudi du mois à 22h. Plus long, plus fort, mais surtout en fait que mon intro c'est n'importe quoi. Parce que, vous l'avez entendu, dans l'intro, je parle de livres et que cette année, on a décidé de parler, mais pas que de livres, ni de livres pour enfants, ni que de guides de voyage, et blablabla. Mais on a aussi décidé de parler de plein d'autres choses, genre des films, voire même des jeux vidéo. Enfin, rien n'est interdit dans cette saison de Qui ou quoi. Alors, ça tombe bien parce que justement, ce soir, c'est la première vraie émission de Qui ou quoi où on va faire ce fameux pas de côté, s'éloigner des livres dont on parle depuis 4 ans. Ce soir, on va parler films et on va pas faire les choses à moitié parce qu'on va parler de films sur Netflix. Et en plus, pour bien marquer la différence, on va également céder aux sirènes de l'actualité et parler de deux films qui sont bien, bien récents. Alors, je dis nous parce que je ne suis pas seul. Alors, je ne suis pas seul pour cette émission. Pour m'accompagner ce soir, il y a Benjamin, donc l'arpenteur du Bourbonnais. Bonjour Benjamin, est-ce que tu nous entends ? Est-ce que nous on t'entend ?
Moi je t'entends, j'espère que c'est réciproque.
Alors normalement oui, est-ce que tu peux te mettre un petit peu parce que donc l'arpenteur du Bourbonnais est dans le Bourbonnais, donc il n'est pas avec moi dans le studio, c'est bien dommage, mais bon peut-être on pourra essayer d'organiser ça, une rencontre au sommet en vrai dans les locaux de Radio Dio, mais là pour l'instant c'est pas le cas, donc ouais, normalement on t'entend, peut-être un petit peu loin. Vas-y.
Ouais, pourtant, je suis censé être relativement près de mon téléphone.
Ouais, près de nos cœurs, surtout. Donc, ce soir, en fait, si tu es prêt, on va parler un peu d'écologie, un peu de comédie, un peu de documentaire. Donc, ce soir, on vous parle de Don't Look Up d'Adam McKay et Des Rois de l'Arnaque de Guillaume Niclou. Et donc, tout ça, c'est maintenant dans Qui ou quoi ? Donc toujours un petit peu un problème de niveau sonore, on va voir ce que les auditeurs nous font comme retour, parce qu'il y a aussi un comité d'écoute dans le Bourbonnais, et puis donc on va voir ce qu'ils en disent. Alors d'abord, Benjamin, je voulais faire un petit topo donc sur le pourquoi parler de films dans Qui ou quoi, sachant que ça fait 4 ans qu'on parle de livres. Alors, je vais expliquer ça aux auditeurs, c'est-à-dire que, donc depuis 4 ans, je ne parle que de livres dans l'émission, j'ai eu quelques invités, mais on a tous parlé que de livres. Alors, des livres obscurs, moins obscurs, etc. Mais il se trouve que je ne suis pas forcément un assez gros lecteur pour donner du grain à moudre à l'émission. Alors, bien sûr, j'ai proposé à des personnes de venir, dont toi, Benjamin, mais même à deux, au final, si on se dit que à plusieurs, on va parler du même livre, et ben faut le temps de lire ce livre, de se coordonner, etc., etc. Et des fois, c'est un petit peu compliqué de lire un livre de 500 pages tous en même temps. On a tous un peu des petits trucs à faire à côté, etc., etc. Alors qu'un film, et ben c'est une soirée, c'est fait, et on peut en regarder plusieurs. Donc voilà, l'idée, c'était un petit peu ça, c'est d'alléger un tout petit peu la préparation d'émission, même si on a un rythme un peu moins soutenu qu'avant. Bon, ça reste un rythme, et donc voilà. Donc au tout départ, il y avait cette idée-là de diversifier, parce que c'était peut-être un petit peu plus facile d'en parler. Et l'autre truc, c'est ben parce qu'en fait, ben les films, donc on aime bien les livres, et puis bon, on aime bien les films aussi. Donc, l'idée, c'était un peu de parler de ces films qu'on aime bien. Alors, il y en a certains qui sont un peu moins connus. Je ne sais pas si on ira jusqu'à parler de The Mangler de Wes Craven. C'est Wes Craven, je crois.
C'est Toby Hooper.
De Toby Hooper, pardon. Mais bon, voilà, rien n'est interdit, tout est possible, comme j'ai dit dans l'intro. L'idée aussi, en expliquant un peu tout ça, c'est de donner un peu la couleur de la cinéphilie qui nous anime dans l'émission. Alors en fait, j'y ai réfléchi un petit peu. Je t'avais pas demandé de préparer ça du tout, Benjamin. Et j'avoue que même moi, en le préparant, c'est un petit peu compliqué. Je savais pas trop quoi dire. Je vais pas te demander tes 5 films préférés au débeauté. Mais bon, on va dire que justement cette cinéphilie, ben elle s'étale de Pasolini d'un côté. Tu m'arrêtes si j'ai tort. De Pasolini en allant jusqu'au plus obscur film de Toby Hooper que on trouve tous les deux nuls, mais qu'on connaît quand même plutôt bien. Voilà.
Voir par cœur.
Voir par cœur, c'est ça. Et en passant par plein de trucs, mais pas forcément les cinéastes iraniens, même si on apprécie de temps en temps d'en voir un petit peu. Enfin bon, on tire tous azimuts, quoi. Mais bon, voilà, quand même avec un petit pas de côté. Voilà. Et puis des bases de série Z et de série B quand même assez fortes. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Je suis relativement d'accord.
Relativement. Bon, on aura le temps de développer ça plus tard. Bon, je reprends ma respiration. Donc voilà, on a cédé un petit peu aux sirènes de l'actualité. Et puis en plus, comme ça, on peut préparer encore mieux la prochaine émission. Et ce soir, on va donc parler de deux films. Que je t'ai proposé de regarder. Donc le premier, c'est Don't Look Up de Adam McKay, dont tout le monde parle. Alors je vais faire un petit, je vais vous raconter un peu le synopsis. Si vous êtes passé à côté, parce qu'apparemment tout le monde en parle. Bon, dans mon radar perso, on n'en parle pas tant que ça. Mais bon, apparemment il y a beaucoup de médias qui en parlent. Donc si vous êtes passé à côté, Don't Look Up, c'est la comédie de Noël vendue sur Netflix, c'est-à-dire que le film est sorti le 24 décembre sur Netflix, avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, et puis Meryl Streep et plein d'autres. Et ça raconte l'histoire de deux astronomes, donc joués par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui vont découvrir qu'une comète énorme est en train de foncer sur la Terre et que d'ici 6 mois, on va tous mourir. Et donc ça va raconter leur pèlerinage pour essayer de faire en sorte que la planète Terre se rende compte de l'urgence et essaye de réagir pour que nous ne mourions pas tous. Adam McKay, le réalisateur, donc bon, je vais pas faire un portrait de Leonardo DiCaprio ni des autres, même si on pourra en reparler. Adam McKay, le réalisateur, il est connu au départ pour ses comédies. C'est un réalisateur de comédies au tout départ. Des films comme La légende de Ron Burgundy, The Anchorman en anglais. Des films Ricky Bobby, je sais plus le titre exact de Ricky Bobby. C'est juste Ricky Bobby ou c'est la véritable...
Ouais,
Ricky Bobby, qui est une histoire de course de voiture, c'est ça, Ricky Bobby ?
C'est ça.
Et puis, donc, il a fait des films comme Frangin malgré eux. Donc, beaucoup de films, beaucoup de comédies avec Will Ferrell. Frangin malgré eux, une histoire de deux quarantenaires qui vivent encore chez leurs parents et qui vont se, qui vont se remarier, Very Bad Cop, qui est aussi une comédie, je crois. Celui-là, je ne l'ai pas vu.
Oui, 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 tout à fait.
Voilà, et des films récemment, des films un petit peu plus sérieux, comme Vice ou The Big Short. Et la particularité donc de Adam McKay, c'est que bon, au départ, même si il part de très loin avec des films comme Ricky Bobby qui racontent peut-être pas grand-chose, et ben petit à petit, en fait, on se rend compte que dans toutes ces comédies, il y a quand même un sous-texte et puis une espèce de prise de position politique sur un peu tout ça. Donc de Anchorman qui va parler de l'info-spectacle via un, c'est quoi, c'est le plus grand présentateur télé, un truc comme ça, jusqu'à The Big Short qui va parler plutôt lui de la crise des subprimes. Donc voilà, j'ai fait une rapide présentation du film. Beaucoup de choses à en dire. Alors c'est peut-être moi qui vais commencer, sauf si tu as quelque chose direct.
Bah simplement, tu vois, je en parcourant un peu sa fiche Wikipédia pour alimenter un peu ce que tu vas sans doute dire, j'ai eu l'occasion d'apprendre qu'en fait il avait démarré avec Michael Moore.
Ah ok. Ok.
Voilà, et du coup, ça peut expliquer un petit peu justement ce que tu disais sur la présence d'un fond, malgré le côté comédie de ce qu'il peut faire et le fond vers lequel il a l'air de tendre de plus en plus.
Alors c'est vrai que nous, Michael Moore, parce qu'on est d'un certain âge aujourd'hui, Michael Moore, ça nous parle, mais un peu moins aujourd'hui, hein, il est quand même vachement moins présent. Il avait fait des documentaires un petit peu engagés, bon. Qui avait marqué fut un temps, et puis bon, le gars a un peu disparu aujourd'hui. D'accord, ben je ne savais pas du tout. Alors effectivement, pour rebondir là-dessus, il y a deux côtés au film. Enfin, moi je trouve quoi. Enfin, on peut l'aborder par deux côtés. Il y a le côté, le côté purement, on va dire, si on fait une critique cinéphile ou une critique cinéma du film, donc est-ce que c'est parler de mise en scène, de comédie, parce que c'en est une, même si c'est pas une comédie où on rigole beaucoup. Et puis il y a un côté, plus le sous-texte politique et qu'est-ce qu'il essaye de nous dire, quoi. Aujourd'hui, dans tous les trucs que moi j'ai pu lire, malgré tout, j'ai quand même lu pas mal de trucs aussi dessus. Au final, c'est plus le côté politique qui prend le dessus. Comme si, en fait, le film, en fait, donc pour centrer un petit peu, on va essayer de pas trop spoiler. Enfin, même si
on va essayer.
la plupart des critiques de ce film. S'empare du film comme si c'était un brûlot politique, quoi. Vraiment un truc, un brûlot politique, un plaidoyer pour l'écologie, ou d'autres, carrément un brûlot anticapitaliste. Alors il y a plein de choses à dire là-dessus, pour le coup. Je trouve que c'est un petit peu. Moi, je trouve que c'est un petit peu léger quand même à ce niveau, c'est-à-dire que ça va pas non plus hyper loin, hyper fort, même si effectivement ça critique pas mal de choses. En fait, le film, il revient énormément sur le traitement que va faire la société américaine, parce que c'est quand même bien aux États-Unis, de l'information du fait qu'on va tous mourir dans 6 mois si on bouge pas, quoi. C'est-à-dire comment vont réagir les politiques par rapport à cette information. Est-ce qu'ils vont s'en emparer pour essayer de faire quelque chose, ou jusqu'aux chaînes info qui vont, est-ce qu'elles vont relayer correctement le message. Et effectivement, à chaque fois on n'est pas déçu, et à chaque fois ça n'est jamais fait correctement. Et en fait, c'est là qu'on comprend, enfin, assez rapidement, on comprend que la métaphore du truc, c'est là, c'est une comète qui arrive sur la Terre, mais en vrai, ce dont il parle, c'est le réchauffement climatique et le fait que c'est quelque chose qui va arriver, mais dont personne ne s'empare, que ce soit au niveau politique ou au niveau média, etc., etc. Tu m'arrêtes, hein, si t'as quelque chose à...
Non, pour l'instant...
Bon, après, je suis juste en train d'expliquer à peu près ce qui se passe dans le film. Bon, c'était un petit blanc là, on va dire.
Écoute, c'est vrai que Bon, moi, ce que je peux en dire déjà, c'est que j'ai apprécié ce film pour ce qu'il est. Comme tu disais, c'est vrai que quand tu fais un peu le tour de certains réseaux sociaux, dans une certaine communauté écologiste, etc., j'ai pu voir des propos que je trouve un peu forts sur voilà, le brûlant anticapitaliste. Oui, il y a un personnage qui, moi, m'a beaucoup ramené du côté de Steve Jobs, qui est ridicule, pathétique et d'une extrême importance sur un plan social. Donc oui, il y a cette critique-là, mais de là à dire que c'est un film anticapitaliste, bon. Après, c'est toujours pareil, il faut partir de... Comment dire de la... Moi, j'aime bien essayer d'analyser un peu la façon dont les films m'arrivent. Là, j'avoue que c'est arrivé un petit peu comme ça. J'en attendais pas grand-chose, je savais pas spécialement ce que c'était. Très honnêtement, je l'ai regardé... Pour préparer cette émission, je n'avais pas prévu de le regarder autrement parce que voilà, j'étais un peu passé à côté de l'info film de Noël. Alors, quand on dit film de Noël, c'est pas... Noël n'a rien à voir dans le film. Hein.
Ouais, non, mais c'est
voilà, la comédie qui sort pour les fêtes, on va dire.
Oui, mais bon. Il n'y a pas de dessin animé Noël particulièrement qui est sorti le 24 décembre sur Netflix, quoi. Tu vois ?
Alors... Pour réagir à ça, en fait, il est sorti au cinéma début décembre, visiblement.
Ah,
pas en France, oui. Mais il y a des pays, alors je ne saurais pas dire lesquels, il y a des pays dans lesquels le film est sorti au cinéma. Et au départ, c'était un projet de cinéma dont Netflix a racheté les droits, visiblement. Mmh. C'est important, cette histoire de Netflix, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais moi, c'est un film que j'ai apprécié. J'ai peut-être rigolé un peu plus que toi. Je suis... pourtant pas un fan, je pense, d'Adam McKee, parce que je suis pas un grand fan de Will Ferrell. Mais je trouve qu'il y a des choses qui, sur un plan comédie, sont plutôt bien amenées. Alors c'est peut-être plus un petit peu en marge, des petites phrases, notamment du personnage de Jennifer Lawrence, enfin, interprété par Jennifer Lawrence, des petites phrases qui sont balancées un peu en marge, comme ça. Moi, je trouve que le côté comédie fonctionne pas mal. Ce que j'ai apprécié dans le film, c'est tout le départ... qui va quand même à une vitesse assez dingue. Enfin, je trouve qu'il y a un rythme qui est vraiment bien foutu.
Ouais, alors que moi, justement, ce serait plutôt le début. J'ai trouvé ça pas terrible parce que justement, je me suis pas du tout attaché au personnage. J'arrivais pas à. L'empathie et l'incarnation des personnages est hyper importante. Et en fait, au tout début, pour moi, les personnages n'existent pas. Puis en plus, ça m'a posé un problème parce que Jennifer Lawrence, je trouve que c'est pas une actrice intéressante. Je trouve qu'elle a pas de, elle a pas de charisme. C'est la première fois que je me rends compte. J'ai vu plein de films avec elle et c'est la première fois que je me rends compte que c'est Mystique dans les X-Men. J'avais jamais calculé alors que j'ai vu plein de films avec elle, mais j'avais jamais calculé que c'était elle, quoi. Donc et je trouve qu'elle est assez elle est complètement neutre, elle incarne rien, quoi. Voilà. Et au tout départ ça m'a vraiment gêné, d'autant que ça commence vraiment sur les chapeaux de roue et on pourrait être au tout départ il y a tellement pas de personnages que on pourrait se retrouver dans n'importe quel film catastrophe un peu bidon. Mais bon, justement, c'est ça le truc, c'est qu'au final, les personnages s'étoffent tout au long du film, et
oui,
ça, c'est plutôt pas mal.
Bien sûr.
C'est plutôt bien écrit, c'est plutôt finaux, c'est plutôt crédible, cohérent, et ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'était juste pour réagir que moi, le début ne m'a pas convaincu du tout, quoi.
Non, moi je me suis assez rapidement laissé porter. Je suis un peu, enfin, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi sur le fait que les personnages s'épaississent. Globalement, je trouve que ça joue très bien, même Jennifer Lawrence, tu vois, même si toi tu l'as pas spécialement apprécié. Moi, j'ai un peu plus de mal avec DiCaprio, et là je l'ai trouvé quand même plutôt efficace. J'ai bien aimé ce qu'a fait Cate Blanchett. Qui joue donc une journaliste, voilà, un peu certainement, enfin, on l'espère caricaturale, mais voilà, ça se passe aux États-Unis, donc après on est sûr de rien. qui serait presque un rôle à la Tilda Swinton, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Non, pas du tout.
Cate Blanchett, tu vois, je pense que les gens la connaissent surtout pour des publicités à la télévision où elle vend des parfums, et là elle joue quand même beaucoup de son image, quoi. Et, Alors, c'est toujours, faut toujours se méfier un peu de ça, mais il y a peut-être un agent derrière qui lui a dit qu'il était temps dans sa carrière de jouer avec son image.
Ouais.
Mais ceci dit, je trouve que ça joue quand même globalement bien. Le rythme est vraiment pas mal. Alors, forcément, il y a un moment où le film va s'essouffler un tout petit peu. Il n'y a rien de dramatique. Mais oui, c'est difficile de tenir la longueur en termes de rythme comme il le fait au départ. Bon, alors, moi, je suis assez. Je pleure facilement devant les films, donc j'ai même eu le droit, moi, à un petit moment d'émotion malgré tout. Après, voilà, tout dépend. Enfin, faut toujours situer un peu ce qu'on est par rapport au film qu'on est en train de voir. Moi, il s'avère que je suis relativement sensibilisé aux histoires de réchauffement climatique, etc. Même si, a priori, j'ai plutôt l'âge d'être un de ces fameux boomers bientôt. Donc, sur le traitement de cet aspect-là du film, j'en attends pas grand-chose. Là où ça devient intéressant, c'est que c'est Netflix, c'est qu'il y a quand même des stars au générique, au casting, et qu'effectivement, ça va peut-être ouvrir certains yeux ou certaines consciences. Alors après, je ne sais pas s'il faut trop compter là-dessus, mais c'est quand même une dimension intéressante du film, selon moi.
À ce propos, justement, ouais, c'est vrai que ça, c'est en fait, c'est le truc qui fait parler, quoi. C'est-à-dire que le film, comme tu disais, il y a des gens qui s'en emparent en disant que c'est un brûlot anticapitaliste. Il y en a d'autres qui disent, mais regardez, c'est une critique du système médiatique et de ce qui se passe pour le réchauffement climatique. Et en fait, de l'autre côté, plein de personnes disent, oui, mais votre film, c'est de la merde, ça propose rien, etc. Enfin bon. Et en fait, c'est là où je me dis, moi, quand j'entends parler de tout ça, je me dis, mais en fait, c'est juste une comédie, quoi. Et je pense que le film, au départ, il n'a pas la prétention d'être plus qu'une comédie, même si apparemment je me trompe un petit peu, parce que j'ai pareil, en préparant un petit peu l'émission, j'ai vu que Adam McKay avait quand même cette ambition d'essayer de faire passer un message politique, quoi. Mais ça reste un film, et de mémoire. Il n'y a pas beaucoup de films qui ont changé l'histoire du monde. Il y a des films importants, il y a des films qui ont marqué, mais en tout cas, ce n'est pas avec ce film-là que les gens vont infléchir forcément leur façon de se comporter vis-à-vis de l'environnement, etc. En revanche, je pense que le film, il peut être important pour parler pour provoquer la discussion autour de ce sujet du réchauffement climatique. Je connais des personnes qui étaient passées complètement à côté de la métaphore. Et en fait, ben, pour ça, c'est pas mal de justement, parce que moi, je suis un petit peu comme toi, je suis sensibilisé au truc. Et justement, je me disais qu'à la fin de l'émission, on va pouvoir envoyer plein de recos, dont une recommandation de podcast qui nous tient à cœur tous les deux. Mais justement, dans tous ces trucs. Et c'est important parce que ça permet de justement ouvrir le débat, d'en parler, parce qu'en fait, il reste des gens qui sont persuadés du contraire, ou alors des gens qui sont des fétistes, ou alors des trucs. Enfin, au final, moi, c'est vrai que je l'ai vu, j'ai pas trouvé que c'était un grand, grand film. Enfin, je m'en souviens, j'ai passé un agréable moment, mais je me rends compte surtout que, au final, j'en ai parlé autour de moi, même en disant ouais, c'est pas foufou, mais il faut regarder-le quand même. Et même si les gens derrière, ils me disaient bah ouais, effectivement, c'est pas foufou, bah derrière, il y avait un petit débat en disant bah oui, mais attends, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ah bah tiens, on pourrait faire ci, ça, comme ça, ou alors ah, mais tu te rends pas compte, etc. Je pense que c'est le bon format quand effectivement on se rend compte que, bon, quand on est un petit peu sensibilisé aux histoires de réchauffement climatique, le rapport du GIEC qui sort, mais personne va le lire. Et
Exactement.
puis ça va, pareil, bon, là, je fais comme dans le film en fait. C'est assez fou parce que toutes les conversations qu'on a autour du film, en fait, elles sont dans le film déjà, un petit peu. Ça fait un peu, il y a un petit aspect méta pour le coup. Je fais spéciale dédicace à certains qui se reconnaîtront avec qui j'ai parlé justement de cet aspect méta. Donc, ce que. Merde, j'ai perdu le fil. Le côté. Zut, non, j'ai complètement perdu le fil de ce que je disais.
Bah, tu vois, par exemple, sur le côté un peu méta ou quoi que ce soit, Daniel Schneiderman a publié un truc sur Arrêt sur Image, donc le site Arrêt sur Image, dans ces derniers jours, ou peut-être même aujourd'hui, je ne sais pas, où il ressort une séquence qui doit dater du mois de novembre, de l'émission 28 minutes sur Arte, voilà, que j'ai tendance à considérer comme un poil au-dessus de Touche pas à mon poste, par exemple, en matière de débats sociétaux et d'informations. Et il y a une séquence où tu as une journaliste de Blast qui vient parler réchauffement climatique et urgence. Et autour d'elle, il y a Jean Quatremer, il y a le rédac-chef, je crois, du Point ou du Nouvel Obs, enfin, je ne sais plus. Et il y a un moment, elle fait part du fait que c'est sa génération à elle qui va sans doute connaître l'effondrement, etc. Et puis alors, autour, ça se met à rigoler en disant... ah oui, bah c'est gentil pour nous, ça veut dire qu'on est des vieux, qu'on va tous crever machin avant, enfin voilà. Et ça rigole joyeusement, et c'est quand même très proche, pour ceux qui auraient vu le film, très proche de certaines scènes, proche de certaines scènes du film.
Bah oui.
Et on ne s'attend pas tout à fait à ça d'une émission comme 28 minutes, donc, qui est sur Arte, etc., qui par ailleurs a quand même des qualités, heureusement. Mm-hmm. Mais... et en fait, c'est vrai qu'on en est là. Et tu parlais du rapport du GIEC. Et effectivement, il sort la semaine où Messi signe à Paris. Donc, bye bye, quoi.
Donc, personne n'en parle.
C'est ça.
Et donc, c'est pour ça que le film... Donc, moi, je le replace comme ça. C'est-à-dire que même si ce n'est qu'un film, qu'en plus, on peut lui faire un procès sur le fait qu'il est sur Netflix, que Netflix sorte effectivement... Alors moi, je n'avais pas du tout vu cet aspect-là, j'étais même limite pas d'accord au départ, mais cet aspect-là où, en fait, quelque part, Netflix qui propose ça le jour de Noël, qu'ils savent très bien ce qu'ils font, que c'est un peu en mode greenwashing pour faire oublier que, effectivement, les serveurs de Netflix, ils polluent, ou des choses comme ça, que tout le monde qui regarde Netflix, ça pollue encore plus que les serveurs même, etc. C'est une espèce d'opération un peu de greenwashing, genre ouais, on fait ça, mais regardez, on en est conscient, et puis on n'est pas si mauvais, quoi. Donc mais le film continue quand même, permet d'en parler. Là, on a réussi à placer quelques trucs, et c'est important, en fait, je pense, que ce soit en toile de fond, que à force de, si tout le monde en parle, peut-être on arrêtera tous un peu de manger de la viande, machin. Bon, après, je vais pas faire mon vent debout sur les histoires d'écologie, c'est pas vraiment le propos, mais donc voilà. Non, donc je pense que le film est pas mal. On va essayer de conclure.
Oui,
on va essayer de conclure pour pas parler trop longtemps que de ça, parce qu'on pourrait, en fait, on pourrait en parler longtemps. Vas-y.
Je pense qu'il mérite d'être vu. Je pense que, tu vois, dans la conversation qu'on vient d'avoir, il nous ramène à ces trucs, ces vieilles questions de est-ce que l'art peut changer le monde ? Est-ce que changer le monde, c'est tout bouleverser du jour au lendemain ? Ou est-ce que le fait d'impacter sur quelques personnes, c'est déjà suffisant pour amorcer le changement d'un monde, etc. Donc, ouais, rien que pour ça, c'est vrai que ça vaut d'être vu. Discuter un peu... avec les gens qu'on a autour de soi, quand on a des gens autour de soi.
Oui, voilà. Et moi, je dis qu'en fait, au final, même si moi, je ne me suis pas tapé le genou en permanence, au bout d'un moment, il y a quand même des moments assez fameux. Ce n'est pas un grand film, parce qu'en termes de mise en scène, ça reste un peu plan-plan, on pourrait dire. Mais ça reste un film... C'est bien fichu, quoi. Voilà, c'est bien fichu.
Oui.
Je le conseille. Moi, je l'ai conseillé à mes parents. N'hésitez pas. on va voir. Mais bon, au final, je pense qu'il est quand même intéressant à regarder. Et voilà, donc à qui ou quoi, on conseille plus ou moins. On conseille plutôt que moins.
Oui, on conseille plutôt.
Allez, on se fait une première pause. C'est parti.
He said, I am not fighting for you anymore. And the queen knew she'd seen his face someplace before. And slowly she led him inside. He said, I've watched your palace up here on the hill. And I've wondered who's the woman for whom we white. Down the long narrow hall he was led, into her room with her tapestries red, and she never once took the crown from her head. She asked him there to sit down. He said, I see you now, and you are so very young, but I've seen more battles lost than I have battles won, and I've got this intuition says it's all for your fun. And now will you tell me why? Well, the young queen, she fixed him with an arrogant eye. She said, you won't understand, and you may as well not try. But her face was a child's, and he thought she would cry. But she closed herself up like a fan, and she said, I've swallowed a secret burning thread. It cuts me inside, and often I've bled. And he laid his hand then on the top of her head, and he bowed her down to the ground. Tell me, how hungry are you, how weak you must feel, as you are living here alone and you are never revealed. But I won't march again on your battlefield. And he took her to the window to see, and the sun, it was gold, though the sky it was gray, and she wanted more than she ever could say. But she knew how it frightened her, and she turned away and would not look at his face again. He said, I want to live as an honest man, to get all I deserve and to give all I can, and to love a young woman who I don't understand. Your Highness, your ways are very strange. The crown, it had fallen, and she thought she would break, and she stood there ashamed of the way her heart ached. And she took him to the doorstep and she asked him to wait. She would only be a moment inside. Out in the distance her order was heard, and the soldier was killed, still waiting for her word. And while the queen went on strangling in the solitude she preferred, the battle continued on.
C'était donc Suzanne Vega avec le morceau The Soldier and the Queen sur son premier album. On est de retour sur Radio Dio dans Qui ou Quoi, l'émission qui parle de bouquins mais qui ce soir vous parle de films, sur le 895, et on part sur le deuxième film. Alors, le deuxième film dont on va parler ce soir, cher Arpenteur, c'est un peu moins réussi, beaucoup plus léger en termes de contenu, mais quand même un peu rigolo. C'est vraiment de la grosse critique, c'est vraiment de la critique de haut niveau, quoi. Ça s'appelle donc Les Rois de l'Arnaque. C'est un documentaire qui est sorti sur Netflix, toujours en octobre, je crois. J'ai plus la date en tête, mais c'est à peu près ça.
Je dirais début novembre, mais c'est vraiment pour le plaisir de te contrarier.
Ouais, fin octobre, début novembre. Moi, je dis octobre. qui va en fait. C'est un documentaire. Donc là, cette fois, on n'est pas sur un film. On est vraiment sur du documentaire. Qui va nous raconter en fait la trajectoire d'un homme qui s'appelle Marco Mouli, qui a en fait, qui au début du film sort de 8 ans de prison, parce que ce monsieur en fait il a participé à l'arnaque des quotas carbone. Qui a eu lieu dans les années 2010, je crois, si mes souvenirs sont bons.
Un petit peu avant, ouais.
Un petit peu avant, c'est-à-dire qu'en fait, il avait monté une énorme arnaque et il s'était fait énormément d'argent avec des personnes de son entourage. Et donc, le documentaire revient sur cette arnaque et surtout sur la trajectoire de ce monsieur, parce que ce monsieur est un personnage, comme on dit en anglais, « bigger than life ». Alors, c'est un documentaire estampillé Netflix. Hein, là, des trucs dont on parle, c'est vraiment des trucs qu'on peut malheureusement ne voir que sur Netflix ou en les téléchargeant. Donc, on sait où est-ce qu'il faut regarder. Et donc, ça, c'est un documentaire Netflix qui est réalisé par un réalisateur français qui s'appelle Guillaume Niclou, dont les faits d'armes sont des films dont je ne me souviens pas carrément, donc c'est pas très cool.
Il y avait l'enlèvement de Michel Houellebecq par exemple.
Vous...
que je n'ai pas vu. Le Poulpe.
Ah si, Le Poulpe, moi j'ai vu ça.
Des choses comme ça. Voilà.
C'est vrai que moi j'avais vu ça, mais c'est fou comme voilà, t'as beau lire les choses, tu les retiens pas quand elles t'intéressent que moyennement. Bref, donc c'est un monsieur qui s'appelle Guillaume Niclou qui a fait d'autres documentaires. Hein. C'est pas son premier coup d'essai. Et donc, qui est pile poil, on en parlait avant l'émission, qui est sur la forme pile poil dans ce qu'on appelle, nous, des documentaires Netflix. Est-ce que t'as quelque chose à dire là-dessus, par exemple ?
Oui. Alors, quand je pense documentaire Netflix, je pense plutôt à ce qui est produit aux États-Unis. Voilà, il faut que ça soit toujours un peu tonitruant, un peu.
Il faut que ce soit fun. Moi, je dirais que c'est plutôt une histoire de fun. Il faut que ce soit cool, quoi. C'est jamais.
Ouais, alors déjà, il y a un truc qui a tendance personnellement à me gonfler un petit peu. C'est le. Tu vois, tu lances ton film documentaire et ça commence déjà par les meilleures punchlines qui vont venir plus tard dans le film.
Ouais.
Ça c'est voilà, ça bon, j'ai un peu de mal, mais c'est encore le moindre écueil que je pourrais trouver à ce film. Mais oui, c'est ça, il faut que ça claque, il faut voilà, comme tu disais, qu'il y ait des personnages haut en couleur.
Il faut aussi qu'il y ait des belles transitions. En fait, on est loin du cinéma documentaire tel que moi personnellement je l'apprécie, quoi. C'est-à-dire bon, alors moi autant dans les films de fiction j'ai vraiment besoin de m'identifier au perso. Bon, je pourrais raconter ma life sur ces trucs-là. D'ailleurs, je pense que dans un des podcasts, dans une vieille émission de Qui ou quoi, je crois que j'avais un peu raconté mon rapport au cinéma où tout est né à l'âge de 14 ans, je crois, quand j'ai vu Terminator 2. C'est dire la grosse cinéphilie, quoi. Même si bon, j'assume totalement. Mais en tout cas, je sais que les sentiments que j'ai eu en voyant ce Terminator 2 tout seul un mercredi après-midi à la séance de 18h, je m'en suis jamais vraiment remis, et qu'au final c'est quelque chose que je recherche dans le film, dans le cinéma aujourd'hui, et ce qui explique vers quel film j'ai le plus tendance à aller, même si il y a plein d'autres films que j'aime bien, effectivement Pasolini, Robert Bresson en font partie, mais c'est pas du tout le même truc, quoi. Et les films documentaires, aujourd'hui, c'est les seuls films qui t'emmènent dans des endroits, enfin, qui peuvent t'emmener dans des endroits inconnus, pour moi. y a plus, ayant vu beaucoup de films de fiction, au final, je sais toujours un petit peu où je mets les pieds, quoi. Il y a plus vraiment de films qui me bouleversent, qui m'emmènent à un endroit particulier ou qui me terrassent, quoi. C'est nul, mais j'ai passé l'âge pour ça, quoi. Mais en fait, ce truc-là, je peux le ressentir sur des films documentaires qui peuvent être hyper abstraits, hyper forts, quoi. Bon, sans aller jusqu'au plan fixe de l'Empire State Building par Andy Warhol, il y a quand même des trucs qui peuvent vraiment me chambouler fort dans le cinéma documentaire aujourd'hui, alors que dans le film de fiction, il n'y a plus. Mais c'est pas ces documentaires-là, hein, clairement. C'est pas ces documentaires-là où on veut absolument me raconter une histoire comme si c'était un film de fiction, en fait. Mais pour autant, donc ce film-là, il est pas du tout là-dedans. Il y a des interludes avec des trucs qui crient, avec des néons qui font que c'est cool. Il y a de la punchline, etc. Mais ce film, il a quand même un petit intérêt. Bon, déjà, en fait, on sait pas trop où il t'emmène. Au départ, tu vois cette espèce de monsieur, là, Marco Mouli, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Vraiment, la première chose qu'on se dit, mais c'est pas possible, il existe pas, ce gars. Enfin, c'est pas possible qu'on soit comme ça. C'est pas possible qu'on se comporte comme ça, c'est pas possible qu'on parle comme ça, et c'est pas ce mec-là qui a détourné 300 millions de dollars, quoi. 300 millions d'euros, pardon. c'est vraiment... Il y a un truc qui interpelle à ce niveau, et qui après t'emmène, et après ils essayent de t'emmener un peu dans cette histoire où t'as l'impression, en fait, d'être dans un film de mafieux, mais avec, en fait, des mafieux qui n'en sont pas du tout, juste des mecs qui ont eu une opportunité de se faire de la thune et qui se sont retrouvés avec tellement d'argent qu'ils sont... Bon, déjà, ils avaient, je pense que déjà au départ, ils étaient un petit peu cassés, mais derrière, et qui vont gérer cet argent d'une façon... Je veux pas trop spoiler parce que justement c'est un petit peu l'intérêt du film, c'est de se dire mais quoi, what the fuck, quoi. Vraiment, c'est un petit peu ça. Mais bon.
Ouais, après, enfin, ça reste quand même les protagonistes qu'on voit sont quand même des malfrats du départ, quoi.
Ouais, mais c'est des petits bras.
Alors, ils sont gentils, ils parlent d'affairistes, etc. Mais c'est des petits bras. Ils sont dans la magouille financière. Ils sont dans la magouille financière. C'est pas voilà, ils vont pas forcément aller te péter les genoux, même si au final on peut se poser la
si. Question. Enfin, justement, c'est qui
en l'occurrence, oui, c'est un des intérêts du film. Écoute, moi je suis un peu revenu dessus. Je t'en ai parlé vite fait après l'avoir vu là en début de semaine, parce que pour moi, je pensais voir un film sur justement cette histoire d'arnaque au quota carbone. Et en fait, on n'est pas là-dedans. On est plus dans le portrait, effectivement, du fameux Marco Mouli dont tu parlais et des gars qui sont autour. Et au final, c'est vrai que ce scandale du quota carbone, bon, on nous en parle un peu parce qu'il faut le faire, mais c'est vraiment pas le plus important. On n'a aucune... c'est expliqué. Alors, c'est vrai que l'arnaque n'est pas très compliquée en soi, mais enfin, je trouve qu'en termes de pédagogie, c'est un peu léger, puis ça arrive un peu tard dans le film. et puis voilà. Enfin, moi, c'est un sujet que je connaissais un petit peu pour avoir lu des articles, notamment. Enfin, Fabrice Arfi sur Mediapart a beaucoup couvert ce sujet et il a même sorti un.
Il est interviewé dans le film ou pas? Non, je crois pas. Hein.
Non, pas du tout. Non. Et il a même sorti un bouquin dessus. Voilà. Moi, le reproche que je peux faire au film, quelque part, c'est un peu son intérêt aussi, mais c'est qu'au final, tu sais plus vraiment ce qui est du documentaire, de la fiction, de la mise en scène.
De la fiction, il y en a pas.
Parce qu'il y en a pas. Il y en a un peu dans le sens. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la façon dont c'est traité, tu vois, il y a des scènes qui sont clairement mises en scène.
Ouais.
Il y a des scènes qui n'existent pas s'il n'y a pas une caméra et un réalisateur qui sont là pour dire on va faire comme ci, on va faire comme ça.
Tu parles du genre le détecteur de mensonges.
Le détecteur de mensonges. Alors voilà. Alors merci le twist final parce que je crois que ça sauve en grande partie de film.
Ouais, c'est ça.
mais la scène dans le cirque. Il y a même un moment, on le voit aller, il est chez un de ses copains, il veut prendre un sandwich, machin. Enfin, je veux dire, je vois difficilement la caméra tournée à ce moment-là pour filmer ce truc qui n'a pas vraiment d'intérêt. Enfin voilà, moi je suis un peu mal à l'aise avec ça parce que j'aime. Enfin, ça serait quand même intéressant de que les frontières entre la fiction, parce que malgré tout, ce personnage là de Marco Mouli, c'est un personnage de fiction.
Ouais, moi je suis pas forcément d'accord.
Ouais. Dans la vie, dans la vie de tous les jours. Je veux dire, c'est un personnage qui joue.
Tu vois, je pense qu'il est hyper sincère. Bon, après, j'aimerais pas être dans sa tête, hein, mais non, je pense qu'il. Enfin, pour moi, c'est quand même tout un peu résumé avec. Il faut savoir que ce monsieur, il a fait un morceau de rap. Qui est vraiment n'importe quoi, qui reste dans la tête et dont je vais vous épargner le passage sur Radio Dio. Mais en fait, quand il passe ce morceau au procureur, je ne sais pas si tu t'en souviens.
Oui, tout
à fait. Et le procureur, il sourit et il dit « Ah, il est fou celui-là, mais je l'aime bien ». Et en fait, c'est un peu ça, quoi. Pour moi, c'est ça, ce film, il est comme ça. C'est-à-dire que le gars, il a volé des milliards d'euros, des milliards et des milliards d'euros, mais il est quand même super sympathique, quoi. Il a pas l'air méchant, et pour autant, il y a des morts, quoi. C'est vraiment, l'histoire, elle est un petit peu fascinante, mais moi, je vois pas de fiction, quoi. Je veux bien un petit peu de mise en scène, comme d'habitude, c'est-à-dire, ah bah tiens, je vais faire un chant contre chant quand tu vas rentrer dans la maison, mais de là à dire qu'il y a de la fiction... Ouais,
quand je dis que le personnage, c'est que lui dans la vie, il est aussi dans la fiction, si tu veux.
Oui, bah après on sait pas comment.
Et on le voit parce que dans le sens où il se contredit lui-même et dans la façon dont il interagit avec certains autres personnages, où tout d'un coup il fait le mec offusqué, et t'as les mecs gars autour de lui qui disent « Attends, t'es gentil, tu vas pas t'offusquer là maintenant de ça. »
Oui, c'est vrai.
Et puis il se rend compte qu'effectivement il n'est pas avec les personnes avec lesquelles il peut s'offusquer puisqu'ils le connaissent.
Voilà, tu vois, parce qu'ils savent.
Il y a ce truc-là. Voilà, ouais. bien sûr que lui, il joue un rôle. Et,
oui.
Ça peut être un des trucs intéressants dans le film, c'est quand Guillaume Niclou essaye d'aller un peu à revers de ce rôle-là, mais finalement c'est pas si souvent que ça dans le film. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a un peu quand même une glorification de ces mecs-là. Un personnage qui est intéressant, c'est celui qui se présente comme son meilleur pote. Et là, effectivement, c'est bien amené parce que le gars, on le voit intervenir plusieurs fois dans le film avant d'apprendre que bon, bah, c'est quand même un miraculé. Et
Oui, et il pense que clairement, c'est son meilleur pote. C'est Marco Mouli qui a commandité son... de se faire shooter, quoi. Même si bon,
donc, ce qui m'a un petit peu gêné, mais c'est peut-être aussi de ma faute, hein, c'est ça, c'est de penser voir un film sur cette affaire et sur ce scandale, et au final c'est vrai que c'est sans doute moi qui me suis trompé, hein. Le film s'appelle Les Rois de l'arnaque et effectivement on voit, oui. Alors je sais pas si c'est les rois de l'arnaque parce que encore une fois au final eux ils ont eu leur part du gâteau, hein, dans cette arnaque au quota carbone, mais ça a été c'est loin d'être les seuls, et tous les autres autour on n'en parle pas alors qu'il y a aussi des morts dans d'autres dans d'autres clans qui ont tourné autour de ça.
Il semblerait qu'il a fait ce film pour se protéger de celui qui est encore en prison, en fait, qui est très d'accord. Soupçonné d'avoir et il semblerait qu'il se soit dit mais je vais essayer de faire ce film comme ça au moins. Et ça me rendra peut-être un peu intouchable.
Mais après, effectivement, hein, c'est vrai que les mecs, t'as jamais vu ça, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ces gens-là, je les connais pas.
Non.
Et dans la façon dont ils mettent en place leur arnaque et dans la façon dont ils se font gauler, parce que il y a un moment, les mecs, ils réfléchissent pas, quoi.
Oui, c'est n'importe quoi.
Voilà, c'est quand même n'importe quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant à voir.
C'est un peu
après,
hallucinant.
Pour le fond du problème, je préfère nettement dire aux gens si le sujet vous intéresse, le côté arnaque, allez plutôt lire les articles de Mediapart ou des autres journalistes qui ont fait le boulot là-dessus, parce que finalement niveau enquête il y a vraiment rien.
Oui, c'est beaucoup plus léger, ouais. Bon allez, on avait dit qu'on faisait pas trop long sur Marco Mouli. On s'écoute un dernier morceau.
Mardoché.
Ouais. On s'écoute un dernier morceau et puis on reviendra pour des recos avant de conclure l'émission. Allez hop. le tigre avec le morceau Keep on Living. On est de retour pour la toute dernière partie de Qui ou quoi. On va vous parler de reco avec mon collègue Benjamin en lien avec ce dont on vient de parler. Qui commence ? Tu commences ? Je commence ? Vas-y, en fait, je te dis, c'est toi qui commences.
Bon, voilà, donc, on s'est pas vraiment concerté avant pour savoir de quoi on allait parler. Mais je pense qu'il y a déjà un truc, pour revenir un peu sur Don't Look Up, moi, il y a un podcast qui m'a beaucoup intéressé, qui m'intéresse toujours, même si, en fait, il s'avère que je l'écoute surtout l'été quand je suis dans mon jardin à retourner la terre. c'est Présage. Voilà, d'Alexia Soyeux, donc présage au pluriel.fr, où elle reçoit des gens pour parler un peu réchauffement, changement climatique, effondrement. Alors il y a des profils différents, il y a des gens qui sont, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui sont un peu plus artistes que scientifiques, etc. Et tous exposent un peu leur vision des choses. Et on va pas se le cacher, c'est pas forcément le truc le plus fun en termes de fond, mais comme on a quand même pas mal à faire à des gens qui sont impliqués là-dedans, je trouve que c'est pas forcément plombant parce qu'on entend des gens qui sont dans l'action, qui croient en ce qu'ils font, parce que sinon ils le feraient pas, s'ils se disaient que c'était vraiment juste trop tard, ils le feraient pas. Et donc voilà, moi je trouve ça plutôt intéressant et effectivement on retrouve pas mal des thématiques qui peuvent être exposées dans un film comme Don't Look Up, de manière un peu plus creusée tout de même. Et j'aime bien le parcours, j'aime bien la présentation d'Alexia Soyeux en fait, où elle a commencé a priori ce podcast parce qu'elle a commencé à se poser des questions, donc elle arrive avec un œil pas extérieur, mais assez novice là-dessus, et on sent qu'elle cherche à comprendre et qu'elle cherche à savoir et qu'elle compte un peu sur ses invités pour l'accompagner dans cette démarche. Et du coup, c'est pas mal pour nous aussi.
Oui, je...
Présage.fr.
Ouais, je plus sois à mort présage. Grave. Donc, rien d'autre à rajouter, à part que c'est de la balle. Limite, on devrait s'arrêter là. Tout le reste n'a pas d'importance. Non, parce qu'après, moi, j'avais bien pensé à d'autres trucs. Il y a toujours les films d'Adam McKay. On les a évoqués un petit peu tout à l'heure. Mais autant Frangin malgré eux, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un chef-d'œuvre.
Bon, moi, je ne l'ai pas aimé du tout.
J'ai pas bien compris. Mais bon, Ron Burgundy, The Anchorman Man est quand même très sympathique. Après moi j'ai pas vu donc si je devais en rajouter en parallèle de ce dont on a parlé, enfin pour voir un peu une autre œuvre de Adam McKay, Anchorman pour moi c'était vraiment sympa. Pour ce qui est des Rois de l'Arnaque, il y a plein d'autres trucs en fait à regarder pour le coup. Non mais c'est vrai, parce que il y a une série, il y a un film qui s'appelle Carbone, bon ça j'ai pas vu, mais qui est pas terrible il paraît. Il se trouve que moi j'étais tellement fasciné par ce Marco Mouli et par ce film quand je l'ai vu, que je me suis fadé 40 minutes de TPMP parce qu'il a été invité là-bas quoi. J'ai toujours pas compris.
En même temps, on voit Hanouna dans le documentaire.
C'est à la bar mitzvah de son fils.
Du fils de Marco Mouli, effectivement. Hanouna est invité.
Ouais, Puff Daddy, Patrick Bruel et Hanouna. Mélange des genres, quoi. Et donc c'est vrai que moi j'avais pas grand chose d'autre à rajouter. Moi c'est surtout présage que j'adore et qui est un podcast à mon avis très important. Voilà, quand vous écoutez pas Radio Dio, vous pouvez vous faire un petit présage de temps en temps quoi. Voilà. Autre chose, un dernier truc.
Non, spécialement. Je peux juste citer Sismic également dans les podcasts, mais j'ai moins pratiqué que Présage, mais qui a un peu les mêmes thématiques et la même façon de faire. Sismic au singulier cette fois-ci .fr.
Ouais, et moi aussi un site internet par contre que j'apprécie plutôt. bon après même s'il y a des choses à redire, hein, qui s'appelle bonpote.com. Bonpote.com qui est pareil, tout ça c'est des trucs indépendants, hein, que ce soit Alexia Soyeux avec son présage, Sismic je connais pas, mais en tout cas bonpote.com c'est indépendant, c'est un jeune homme, je connais pas son nom, mais qui a décidé de tout arrêter pour se consacrer à essayer de prêcher le truc du réchauffement climatique pour qu'on essaye de trouver des solutions, quoi. Donc il va expliquer un peu tout, qui fait des trucs avec le CNRS et qui a quitté son travail l'année dernière pour se consacrer pleinement à ce site parce que de toute façon il n'arrivait pas à penser à autre chose, quoi, en gros. Donc c'est un complément aussi sérieux entre présage et bon pote, là on est bon là, voilà. Bon, donc merci Benjamin.
Ben je t'en prie.
J'espère
merci à toi.
Il fait beau dans le Bourbonnais.
Même pas.
On se retrouve pour qui ou quoi, donc maintenant en rythme mensuel dans un mois. Avec une émission, donc là, allez, je m'engage, donc attention, on ne pourra pas transiger. On vous parlera une fois de plus cinéma, mais là, avec des livres. on commencera du cinéma, justement, pour le coup, je me disais, ah tiens, ça fait une petite transition quand même, une petite pause sur les livres, mais donc là, on va évoluer sur des livres, sur, en l'occurrence, le gros du truc sera, on vous parlera de la biographie de David Lynch, qui s'appelle « L'espace du rêve », et des choses qui vont autour. Voilà, et bien... On se retrouve donc dans un mois. Alors la semaine prochaine, dans les mensuels du jeudi, ce sera à ma place comme à la radio duo, l'émission de live expérimental. Et donc on se retrouve le premier jeudi de février. J'ai pas la date en tête, mais voilà, ce sera très bien. Sur ce, bonne soirée à tous. Et puis on va s'écouter un petit. J'ai pas le générique de fin sous la main, donc on va s'écouter un petit David Courtin. Pour le plaisir.